Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. À la fin de l'homélie, le pape prend le temps de s'asseoir pour regarder ce long tissu sur lequel, miraculeusement, la Vierge va imprimer sa personne. Rappelez-vous l'histoire des apparitions, le tissu, ce long tilma, ce long tablier que portait Juan Diego. Et en plaçant les roses, ce sera le signe que la Vierge va donner à l'évêque pour qu'il comprenne que c'est vraiment elle qui lui demande de lui bâtir une maison, un petit sanctuaire. Ce fait miraculeux survenu le 12 décembre 1531 en ce lieu. Alors nous sommes là avec le pape qui prend le temps après l'homélie de s'asseoir en silence et de vénérer cette image que tout le monde voit. Cet immense cadre qui est au centre et qui nous montre l'image miraculeuse de la Vierge de Notre-Dame de Guadeloupe. Ce tissu, vous savez, est encadré et conservé dans un espace particulier, une sorte de coffre-fort, pour pouvoir la préserver parce que bien des gens ont voulu la détruire à travers les siècles. Toutes sortes de façons, on a voulu la détruire par le feu, par des explosions, par tout ça. Ils n'ont jamais réussi. Jamais réussi. Après la messe, longtemps, le pape François ira tout près du cadre, dans ce petit appartement-là, ce petit coffre-fort-là. Alors le pape ira tout près du cadre pour s'asseoir. Il va le toucher et offrira une couronne d'or à la Vierge de Guadeloupe. Moi, je ne me souviens pas que le pape François ait offert de l'or nulle part et à personne depuis son pontificat. Jamais. Mais à la Mère de Dieu, oui. À Notre-Dame de Guadeloupe, oui. Ce sont des minutes intenses. Cela paraît long car les minutes ont une telle charge dans de tels événements, et surtout dans l'horaire chargé du pape François. Lors de son retour en avion, il dira aux journalistes, parce qu'on va lui poser des questions, « Mais qu'est-ce que vous avez fait tout ce temps? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et on le voyait un peu en retrait, la caméra ne nous le montrait pas là, de façon ostentatoire, on voyait l'image de la Vierge, mais pas lui, mais de temps en temps on pouvait voir le profil du pape. Alors, le Saint-Père, il a eu un geste très drôle, il a dit « Oh là là, elle devait avoir la tête grosse. » Je lui ai dit tellement de choses, je lui ai tellement confié de choses. Elle devait avoir la tête grosse, la pauvre. C'est ce qu'il a dit en parlant de sa mère, Marie. Alors, tout le monde est là, là, des milliers de personnes dans le sanctuaire, à l'extérieur, tout le monde est en communion avec cet instant unique. Les évêques sont là, il n'y a personne qui bouge, ça ne bouge pas, tout le monde prie. Tout le monde prie la Vierge avec le pape. La foule retient son souffle avec les évêques et les prêtres qui ne bougent pas. Et le message à retenir, c'est très simple. Toi aussi, qui que tu sois, il leur parle à eux, mais il nous parle à nous, et il parle au monde entier. Toi aussi, bâtis pour moi un sanctuaire. C'est ça le message. Et c'est ça la parole que j'espérais. Je ne dis pas que j'espérais cette parole-là, mais j'espérais une parole qui alimenterait mon cœur lors du passage du pape François au Mexique. Eh bien, c'est celle-là. Toi aussi, Denis, bâtis pour moi un sanctuaire. Et un sanctuaire, bon, c'est le sanctuaire marial, c'est la maison que Marie a demandée, mais on peut faire la même chose, nous aussi. On peut bâtir une maison à Marie. Nous l'avons fait ici, la petite chapelle de lumière, mais il pourrait y en avoir d'autres. Il pourrait y avoir la chapelle de lumière à Québec, dédiée à Marie, l'Immaculée Conception, Notre-Dame de Lourdes, un lieu source, un lieu source. Je vous propose maintenant la lecture en continu du livre de Serge d'Alins, La couronne de pierre, qui nous plonge dans l'univers des persécutions des premiers chrétiens. Philippe lance un imperceptible coup d'œil à deux élèves immobiles et silencieux. Paraît hésiter un instant et enfin répond en haussant les épaules. Ce n'est pas honorer les dieux de Rome que de laisser dire n'importe quoi du leur. Souvenons-nous de Sévère Alexandre, qui avait notre âge quand il fut proclamé empereur. Dans sa chapelle, il avait une statue de Christ, le dieu des chrétiens, qu'il honorait à l'égal des autres, et il voulait même lui faire bâtir un temple. Mais le maître brandit sa férule et se fâche. « Vous continuerez cette discussion après la classe, si ça vous plaît. Pour l'heure, abandonnons ces héros qui vous rendent trop belliqueux et revenons à Virgile. Arma virumque cano. » Ou plutôt non, toi Philippe, qui parles si bien. Dis-nous donc un peu ce que tu sais du pied romain. » Heureusement, Philippe connaît la leçon par cœur et il récite. « Notre pied est divisé en 12 parties. » Il provient du pied grec, qui vaut 16 doigts, c'est-à-dire les deux tiers de la coudée égyptienne, qui en a 24. La barbe, grogne Flavius. Sur le chemin du retour, Tarcissus laisse Phidias raccompagner Sylvia et marche à côté de Philippe. Qu'est-ce qui t'a pris de défendre ainsi les chrétiens? Tu en connais donc? Philippe plante ses yeux sombres dans les yeux clairs de Tarcissus. Oui, j'en connais. Et il ne ressemble en rien à ce que raconte cet imbécile de Flavius. Ah, moi non, aucun. Tarcissus se retient de questionner Philippe plus avant. Car si jamais. Mais son sourire le rassure. Comment un garçon aussi sérieux, aussi bon camarade et digne d'éloge pourrait-il être chrétien? Impensable. Père et mère, qu'a-t-il? Qu'est-il arrivé? Quoi? Marc est mort? Tué par Rufus, qui n'a pas voulu survivre à son ami? Oh Dieu! Et Licinius aussi cette nuit? Lui si plein de vie, il y a quelques heures encore? Moi qui l'avais admis en sa compagnie? Moi qui voulais l'entendre et l'imiter? Tarcissus ne retient pas ses larmes. Son père, sa mère cachent difficilement les leurs. Seule sa grand-mère se borne à maudire la faiblesse des parents actuels. Ce Rufus que nous avons fait sauter sur nos genoux, ce Marc dont la barbe n'avait pas encore poussé, je les aurais fait fouetter de verges pour leur apprendre que leur vie n'appartient qu'à Rome. Jamais de mon temps on n'eût toléré pareil combat. » Ces propos n'allègent guère le poids de ce triple deuil. Prié de déjeuner, Tarcissus avale à grand-peine un bout de pain, avec 3 olives, 2 figues sèches, un peu de fromage et des noix. Puis toujours escorté de Phidias, il reprend le chemin de l'école avec Sylvia. Il n'est question que de la mort des deux amis. Désespéré d'avoir porté un coup fatal à Marc, Rufus, retournant le glaive contre soi, s'est tranché la gorge. Vainement a-t-on tenté de fermer l'horrible plaie. Le sang ne cessait de teindre en rouge le sable de l'arène. Les voici aux enfers avec Licinius. Songe Tarcissius. Leurs âmes. Que sont-elles devenues? Sans y prendre garde, il a pensé tout haut. Comme dans un rêve, il entend Philippe lui répondre « Leurs âmes sont immortelles. Nous pleurons Rufus et Marc, mais ils ne sont pas vraiment morts. » Alors Tarcissus se souvient de la parole de Claude « Vous tous qui êtes ici, vous ne mourrez jamais vraiment. » À nouveau, son regard rencontre celui de Philippe. Apaisé, presque joyeux. Troublé, il baisse les yeux. Que doit-il comprendre? Après la classe, Philippe va presque chaque jour au bain public, avec Pierre et Jean. Ses habituels compagnons demeuraient muets lorsqu'il a répondu à Flavius. Tarcissius lui plaît, si franc, si net. Ce camarade d'école, il en ferait volontiers un ami. Il a longtemps hésité, maintenant il se décide. « Viendrais-tu au terme avec nous ?» lui demande-t-il. « Cela nous ferait grand plaisir de terminer cette journée tous les quatre ensemble. » Tarcissius est ravi. Il court à Phidias, qui attend patiemment, et lui demande de venir le chercher à la fin de la 11e heure. « Je veux bien, » fait l'affranchi. « Encore faut-il que tu me dises à quel bain. Il y en a un bon millier dans Rome. »« Au terme d'Antonin, bien sûr, » répond Philippe. « Nous ne les quitterons pas avant ton arrivée. » Les rues étroites sont incroyablement encombrées. Les chevaux, les ânes, les litières rendent la circulation des passants presque impossible. Les étalages débordent sur la chaussée. Les tavernes sont déjà pleines. L'odeur des sardines grillées étouffe celle des beignets. Pierre évite de justesse le contenu malodorant d'une bassine lancée avec vigueur du haut d'un 4e étage. Et Philippe voit s'écraser un pot de fleurs sur une chaise à porteur, tout à côté de lui. Ils parviennent au terme sans autre dommage, s'attardent un instant à contempler les boutiques installées le long de l'établissement, entrent gratis, car enfants et adolescents ne paient rien, se déshabillent au vestiaire et se rendent à la palestre. Jeu de paume, halter, course au cerceau. Ensuite le bain, avec son cérémonial obligé. On pénètre d'abord dans le sudatorium, où l'on transpire au cœur d'une atmosphère d'étuve. On passe au caldarium, où l'on se nettoie et se sèche, puis au tépidarium pour ménager la transition avant de sauter dans la piscine d'eau froide. Dès leur plus tendre enfance, ils ont appris à nager, et pendant plus d'une heure, ils se défient à la course et au plongeon. Philippe se révèle le plus rapide. Ce qui est normal puisqu'il est l'aîné. Mais Tarcissus, oui, reste le plus longtemps sous l'eau. En se quittant, ils se promettent de recommencer souvent. Tarcissus part avec l'oncle Phidias et les autres se rendent chez Philippe où ils sont conviés à dîner. « Nous serons nombreux ce soir, » leur dit-il, « car un frère est arrivé d'Afrique, porteur d'un message pour Lucius. » Pierre et Jean sourient, ils sont heureux. « Philippe, » fait Jean. « Et Tarcissus ?»« Tarcissus ?»« Oui. Lui parlerons-nous un jour ?»« Je l'espère. Pour cela, il nous faut beaucoup prier. » C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.